9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est d'abord une colère, un cri.
Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille qui a entre 12 et 15 ans et qui essaye de la tripoter. Et qui ne fait pas que essayer d'ailleurs. Je veux dire, c'est ça dont on parle.
L'actrice Adèle Haenel qui accuse le cinéaste qui l'a fait tourner adolescente et dont le témoignage ainsi que l'enquête de Mediapart secoue le cinéma français et l'institution judiciaire. Le parquet de Paris s'est saisi alors qu'Adèle Haenel ne voyait pas l'intérêt de porter plainte. La justice ignore-t-elle les femmes, comme le dit l'actrice? Les plaintes pour violences sexuelles sont-elles négligées, minimisées, classées? Alors qu'un autre cri se fait entendre ce matin contre Roman Polanski, l'avocate Anne-Claire Lejeune, membre de l'association Innocence en danger, sera ma première invitée. Berlin, 9 novembre 89, la chute du mur a fait tomber un régime totalitaire, mais en a réveillé un autre, celui du Troisième Reich. Si l'extrême droite xénophobe flambe aujourd'hui en Allemagne de l'Est, le souvenir du communisme et sa liquidation à marche forcée n'y sont pas étrangers. C'est ce que démontre la journaliste franco-allemande Géraldine Schwartz dans un brillant documentaire qui sera diffusé demain sur France 5. Elle sera en ligne de Berlin. Au générique également, Xavier Mauduit qui remet l'histoire de France en couleur pour un beau livre captivant. Et la dessinatrice de Charlie, Coco, qui avec Raphaël Antoven redonne vie au personnage du Banquet de Platon, grand texte philosophique qui interroge sur des thèmes éternels, l'amour, le désir, la beauté.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Anne-Claire Lejeune.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris, vous défendez plusieurs victimes ou plaignantes de violences sexuelles. D'abord un sentiment face au choc. Adèle Haenel, actrice de renommée internationale, parole inédite depuis le début du mouvement MeToo.
Oui, une parole inédite, une parole extrêmement courageuse, hein, lorsqu'on voit à quel point ça peut être compliqué pour les victimes de dénoncer tel fait. C'est quelque chose sur lequel beaucoup de victimes devraient prendre exemple et j'espère que ça va libérer la parole d'autres victimes de viols et d'agressions sexuelles.
Le cinéaste Christophe Ruggia reconnaît une erreur, il regrette son rôle de Pygmalion mais réfute toute violence et nie les accusations d'attouchement. Des policiers vont maintenant entendre les uns et les autres. L'OCRVP, l'Office central de répression de la violence faite aux personnes, a été chargé de l'enquête. La justice s'est saisie contre, si je puis dire, contre le gré d'Adèle Haenel qui a expliqué à Mediapart pourquoi elle n'a pas voulu porter plainte.
J'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on en voit se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elles. Alors comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi.
Arrêtons, dit Adèle Haenel. Maître Lejeune, est-ce que vous pensez que le parquet de Paris a eu raison de passer outre au refus de l'actrice?
Alors effectivement, le parquet n'a pas besoin de la plainte hein, de l'actrice pour pouvoir ouvrir une enquête. C'est ce qui a été fait. Il me semble que c'était effectivement ce qui était à faire au vu des déclarations qui sont extrêmement circonstanciées et qui sont recoupées, semble-t-il, par un certain nombre de témoignages. Donc il y a matière effectivement à poursuivre, semble-t-il.
Il y a des témoignages qui ont été recueillis par Marine Turquie de Mediapart au long d'une longue enquête. La justice, faut-il le rappeler, agit au nom de la société et pas des victimes. Sur le fond maintenant, est-ce qu'on peut dire que la justice ignore les femmes et parler de violence systémique comme on l'a entendu, ce qui serait un sacré paradoxe alors que les hommes sont maintenant minoritaires dans la magistrature. Plus des deux tiers des magistrats sont des magistrates.
Oui, c'est exact. Je ne sais pas si la justice ignore les femmes, mais je pense que c'est le sentiment effectivement que peuvent avoir les victimes au moment où elles rentrent dans un service de police pour dénoncer des faits. Eh bien, il y a très souvent des difficultés déjà dans le recueil de la parole de la victime. Ça, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment. Et puis, les victimes redoutent évidemment l'issue de la procédure hein, à tous les stades, c'est-à-dire au stade éventuellement du classement. Ensuite, s'il y a une instruction du non-lieu et puis à la fin de la relaxe ou de l'acquittement, on redoute ce processus judiciaire parce que on entend que eh bien, des peines prononcées sont extrêmement faibles par rapport à la gravité des actes. Donc, on peut tout à fait comprendre ces conclusions qui sont celles d'Adèle Haenel.
Ce que vous nous dites, c'est que les problèmes se situent à tous les échelons. Le dépôt de plainte, le recueil de la parole, le suivi des dossiers, la caractérisation de l'infraction.
Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de problème en tant que tel. Je pense que le premier problème, c'est vraiment le recueil de la parole. On s'aperçoit que parfois, les enquêteurs ne sont pas forcément formés à recueillir la parole des victimes de viols et d'agressions sexuelles. D'ailleurs, que ce soit pour des victimes majeures ou des victimes mineures, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent des années plus tard. Donc, il y a quand même une certaine technique. Et puis, moi, je le vois pour avoir accompagné de nombreuses victimes lors de ces dépôts de plainte. Eh bien, parfois, le sentiment qu'on peut avoir envers la victime, c'est celui de ne pas la croire. Et ça, c'est extrêmement désagréable, puisque une femme, un enfant, a priori, ne ment pas. Là-dessus, il y a des choses à améliorer, c'est évident.
Des plaintes qui n'aboutissent pas dans plus de 7 cas sur 10 en 2016, dernière donnée disponible, 73% des 33 000 plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite, essentiellement pour infractions insuffisamment caractérisées. Vous rappelez que la parole ne suffit pas aux yeux de la justice.
C'est tout à fait ça. Alors ça, certaines fois, les victimes n'ont pas forcément cette donnée en tête. C'est qu'effectivement, la parole, ça permet d'initier le dépôt de plainte, mais ensuite, ce qui permet vraiment de rentrer en voie de condamnation et avant ça, de renvoyer quelqu'un devant le tribunal, c'est des éléments objectifs de preuve. Et ça, c'est souvent ce qui manque, notamment lorsque les déclarations sont faites des années après. On s'aperçoit qu'effectivement, tous les éléments matériels objectifs ont disparu, que les témoins sont assez frileux, hein, faut bien le dire, à aussi prendre la parole.
Adèle Haenel disait tout à l'heure, la justice fouille dans la vie de la plaignante. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle attitude avez-vous eue? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour condamner la justice a besoin de preuves, il faut le rappeler.
Oui, là-dessus, je vous rejoins. Effectivement, après, il y a encore une fois des manières de le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de ces éléments objectifs. Donc, nécessairement, les investigations se passent à la fois du côté du mis en cause, mais également du côté de la victime. Mais on peut comprendre aussi que d'un point de vue de la victime de viol, c'est extrêmement désagréable de voir de prime abord sa parole remise en cause. C'est ça qui est compliqué à gérer.
Maître Anne-Claire Lejeune, une pause, courte pause avant de poursuivre.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine.
Avec l'avocate Anne-Claire Lejeune, au lendemain du choc Adèle Haenel, et alors que le cinéaste Roman Polanski est accusé ce matin par une ancienne comédienne d'un viol qu'il aurait commis en 1975, dans les deux cas, la parole plutôt que la justice, d'autant que dans le deuxième cas, les faits sont prescrits. La justice doit se remettre en question, dit Adèle Haenel. Mais comment, Anne-Claire Lejeune?
La remise en question, elle est de toute façon compliquée. Je pense que ce qui est important au-delà de ça, c'est pas le choix que font les victimes pour la justice ou pour les médias. C'est uniquement le fait de briser le silence et de pouvoir dire les faits. C'est ça qui met fin finalement à l'impunité de l'agresseur et qui l'empêche de poursuivre et de renouveler ses actes. Donc je dirais que si aujourd'hui, eh bien, les victimes choisissent les médias, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est vraiment que cette parole se libère. Ça, c'est la première étape.
Oui, au risque aussi de fabriquer, c'est arrivé, de faux coupables. La parole ne peut pas valoir opprobre et condamnation. J'ai vu encore cette semaine, dans plusieurs papiers, le nom de l'acteur Philippe Cobert au milieu d'autres célébrités suspectes. Mais Cobert était accusé par une jeune femme de dépecer des prostituées dans sa cuisine. Les accusations contre lui étaient délirantes. Il est venu témoigner à ce micro. Et il n'a pas été blanchi en l'absence de preuves ou au bénéfice du doute. C'est important de le rappeler, ça aussi.
Oui, non, mais attendez, comme dans toute infraction, il y a des choses qui peuvent être complètement fantasmées, inexactes, c'est certain. Après, il ne faut pas en tirer une généralité.
Non, mais c'est important que la justice passe. C'est pas pour ça
non, mais là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Mais aujourd'hui, on voit ce que fait la justice. Hein, les chiffres que vous avez rappelés, la justice va plutôt dans le sens, justement, d'une étude précise des récits des victimes et cherche à corroborer ces récits avec des éléments de preuve précis. C'est tout à fait la situation quand même actuelle. Après, je pense malgré tout que bon nombre de victimes, et on le voit, elles ne prennent pas la parole aussitôt après les faits. Donc on voit que c'est encore extrêmement compliqué. Adèle Haenel, je crois que c'est 17 ans. Dans le dossier Brunel, on voit que les victimes parlent 20 ans plus tard. Bon, il y a quand même un travail, bien sûr, à faire là-dessus.
Alors vous venez de citer un dossier où vous êtes présente. le dossier Epstein-Brunel, Jeffrey Epstein, millionnaire américain accusé d'un vaste trafic de mineurs. Il s'est donné la mort en prison. Jean-Luc Brunel, agent de mannequin, présenté comme l'un de ses rabatteurs. Vous défendez une jeune Française qui accuse Brunel de harcèlement. La justice avance dans ce dossier ?
Alors écoutez, la jeune plaignante a été entendue hein, en ma présence, une plainte a été déposée, donc on est revenu sur un certain nombre d'éléments précis qu'elle dénonce, puisque là elle parle vraiment de faits qui se sont passés dans la sphère privée et non pas comme d'autres victimes que je peux représenter qui étaient mannequins au sein de Karine Brunel, là c'est vraiment dans la sphère privée, donc c'est quelque chose d'encore différent, et elle dénonce ces faits de harcèlement sexuel. Aujourd'hui, on n'a pas de suite et très clairement, en tout cas à ma connaissance, Monsieur Brunel n'est pas convoqué devant la justice. On nous a parlé souvent du fait que les faits étaient prescrits et qu'il n'y avait pas de support légal pour l'entendre. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y en a un. Pour autant, on s'aperçoit que Jean-Luc Brunel n'est toujours pas entendu.
Son avocate a fait savoir qu'il se tenait à disposition de la justice, mais oui, alors rien n'a suivi.
Sur cette phrase qui est un petit peu martelée en disant qu'il était à disposition de la justice, on l'a entendu aussi, je crois que c'était il y a 10 ans, quand la première affaire Epstein a démarré, son avocat américain avait dit la même chose, qu'il se tenait sans difficulté à disposition de la justice, mais on voit qu'en réalité, à chaque fois, en tout cas dans le dossier américain, qu'il a demandé... qu'on a demandé à ce qu'il soit entendu, il ne s'est jamais présenté. Donc là, à nouveau, cette phrase, ce que je constate en tout cas, c'est qu'à ce jour, à ma connaissance, il n'est pas entendu.
Et les services de police savent où il se trouve ? Enfin, ils l'ont contacté, etc. Parce qu'on a dit d'abord qu'il était en fuite, ensuite on l'a localisé en Amérique latine.
Alors, l'OCRVP, hein, qui est en charge de ce dossier, ne communique pas, en tout cas très peu, avec les avocats des victimes sur... l'évolution sur l'avancée de l'enquête. Donc, je ne peux pas vous certifier qu'à ce jour, ils savent précisément où il est.
Bon, mais vous avez face à vous des fonctionnaires qui vous semblent motivés à faire avancer ce dossier ou vous trouvez qu'il y a des lenteurs qui sont suspectes, pour dire les choses clairement, Maître Lejeune ?
Alors, non, des fonctionnaires qui sont motivés certainement à leur stade, à leur échelon. Après, moi, il y a des choses qui me paraissent quand même étonnantes. Lors des dépôts de plainte, on me dit de surtout pas les envoyer par courrier recommandé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut être intercepté. On me demande d'aller les remettre en main propre au parquet, à la section P4 qui est en charge de ce dossier. Donc il y a quand même des éléments qui, moi, m'interrogent sans que je puisse, à ce jour, hein, tirer quelques conclusions que ce soit.
Merci beaucoup Anne-Claire Lejeune d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, la face sombre de la chute du mur et de la réunification. Ce fut une libération, mais aussi un traumatisme qui pèse encore sur l'Allemagne d'aujourd'hui et explique sans doute la poussée de l'extrême droite xénophobe. La journaliste Géraldine Schwartz avec nous dans un instant.
Europe 1. Le samedi de 9h à 10h, c'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Géraldine Schwartz.
Bonjour.
Journaliste franco-allemande installée à Berlin depuis 20 ans, vous racontez dans un documentaire qui sera diffusé demain sur France 5 la face sombre et méconnue de la chute du mur et de la réunification, méconnue en France en tout cas, sur les années d'anarchie et de souffrance dans l'ex-RDA qui ont accompagné cette intégration à marche forcée et qui pèse encore sur l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais vous rappelez d'abord que cette réunification ultra rapide, elle a été voulue, elle a été plébiscitée par les Allemands de l'Est.
Oui, tout à fait. Ce sont les Allemands de l'Est qui, en mars 1990, lors des premières élections libres de RDA, ont choisi à plus de 40% la disparition de leur pays, la réunification. Et cela alors que la plupart des leaders de la politique de la révolution 1989 déconseillaient en fait une réunification précipitée. Ils pensaient que leur pays n'était pas prêt, leur population n'était pas prête et prenaient de d'abord réformer la RDA. Mais il faut savoir que la population avait quand même été privée pendant 40 ans de liberté et puis aussi d'un certain confort matériel sous la dictature communiste. Oui. Et donc eux aspiraient vraiment au modèle occidental et aussi au Deutschmark.
Oui. Donc ça n'a pas été une annexion comme l'a dit récemment Mélenchon, mais vous le dites dans le film, il y a eu ce sentiment chez les Allemands de l'Est après coup.
Oui, bon, traiter ce processus d'annexion pour moi, c'est vraiment faire insulte aux Allemands de l'Est qui ont délibérément choisi d'enterrer leur pays. C'est les infantiliser. Ce rejet radical des Allemands de l'Est de leur propre pays donne la mesure aussi de la souffrance endurée sous une dictature qui, ne faut pas l'oublier, enfermait quand même ses citoyens dans une bulle non seulement physique, à cause du mur, mais aussi idéologique, et cela de la naissance à la mort. Il était interdit de penser, de parler, d'écrire librement. Donc il faut pas réécrire l'histoire, il faut pas minimiser cette violence, c'est vraiment faire insulte à nos confrères d'Europe de l'Est de manière générale.
Réunification qui a conduit l'Allemagne de l'Est à passer brutalement d'une économie socialiste planifiée à une économie de marché dans un pays qui était un pays de plein emploi. 2 millions d'Allemands de l'Est perdent leur travail pour la seule année 91. Et pour votre film, Géraldine Schwartz, vous avez sous la main un témoin de premier plan, votre père, qui a été l'un des responsables des privatisations.
Oui, en septembre 1990, mon père, qui est un Allemand de l'Ouest, se porte volontaire pour travailler au sein de la Treuhandanstalt. Bon, encore un de ces mots allemands incroyables. C'est un organisme étatique chargé de convertir l'économie socialiste planifiée en une économie de marché, c'est-à-dire qu'il va falloir privatiser en masse. Et lorsqu'il arrive à Berlin-Est, il constate que les usines est-allemandes sont vraiment dans un état pitoyable et qu'il va être très difficile de convaincre des investisseurs de les acheter. D'autant plus qu'à cette époque-là, plus personne ne voulait des produits de RDA, à commencer par les Allemands de l'Est eux-mêmes. Et donc sous la houlette de la Treuhandanstalt, en effet, un tiers des entreprises d'ex-RDA furent liquidées. Et sur 4 millions d'emplois, 2/3 furent rayés. Donc ils vont se retrouver au chômage du jour au lendemain. Ils n'avaient aucune idée, si vous voulez, de ce que signifie une économie de marché et des règles du capitalisme.
Alors ça, c'est l'aspect économique et social, mais il y a aussi un aspect de votre doc passionnant et très éclairant sur la flambée de l'extrême droite dans l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est la différence de culture historique. L'Ouest, expliquez-vous, a grandi dans la mémoire de la Shoah et de la culpabilité des atrocités nazies, tandis que l'Est a occulté ce passé-là. En tout cas, la RDA a fait comme si personne n'avait été nazi.
Oui, en 1949, la RDA a été fondée sur une sorte de mythe. Celui d'être le pays des communistes allemands ayant combattu les nazis auprès des Russes. Alors ça, c'était vrai pour une partie des dirigeants, comme Erich Honecker notamment, qui a été dans un camp de concentration pour avoir résisté au national-socialisme. Mais presque toute la population avait adhéré au nazisme, comme l'ensemble de la société allemande, avant que l'Union soviétique arrive et les force à devenir communistes. Du coup, il a fallu inculquer l'antifascisme de manière artificielle, en abreuvant les Est-Allemands de pratiques commémoratives à la gloire de l'armée rouge, du soldat soviétique. Et les Allemands de l'Est furent poussés à s'identifier aux communistes comme s'ils n'avaient jamais été nazis. Et l'Holocauste fut passé sous silence. Évidemment, cet héritage-là pèse très lourd aujourd'hui et contribue, bien sûr, à expliquer la montée de l'extrême droite, le succès du parti AfD à l'Est, dont les scores sont 2 à 3 fois plus élevés à l'Est qu'à l'Ouest. Mais il y a un autre élément qui explique aussi le succès de l'extrême droite, c'est le fait que pendant 40 ans, les Allemands de l'Est ont vécu de manière totalement cloisonnée. Donc il n'y a pas eu de contact avec des cultures et des religions et des ethnies différentes. Et ça nourrit une vision de l'étranger chargée de clichés et de peurs. Ça, combiné au manque de travail de mémoire, a véritablement préparé le terrain à la xénophobie qu'on voit aujourd'hui, non seulement d'ailleurs en Allemagne de l'Est, mais dans l'ensemble de l'Est européen.
Oui, certains de vos interlocuteurs vont même plus loin en évoquant des parentés entre la RDA et le Troisième Reich, l'éducation autoritaire, l'endoctrinement, les organisations de masse.
Oui, bien sûr, il y a des parallèles, il y a même des continuités. C'est l'endoctrinement, évidemment, de la maternelle jusqu'à la mort, pour faire des Allemands de l'Est de bons petits soldats du communisme. Mais c'est aussi, et ça c'est moins connu, alors que la propagande vendait la RDA comme un pays internationaliste, antiraciste, en réalité, l'un des interlocuteurs dans le film le dit, le racisme existait en RDA, et puis la RDA puisait largement dans le pathos patriotique, était finalement très nationaliste.
Moi j'ai été stupéfait de voir dans votre document, Géraldine Schwartz, que dès la chute du mur, des néo-nazis apparaissent en plein jour à Berlin-Est.
Un des interlocuteurs qui a été dirigeant néo-nazi à Berlin-Est après la chute du mur raconte très bien comment lui, finalement, est devenu néo-nazi en 1988 pour exprimer sa haine de l'État communiste. En étant néo-nazi, eh bien finalement, il rejoignait vraiment l'ennemi du communisme, le fascisme. Donc ça a été un mouvement de jeunesse qui servait finalement de moyen de contestation contre l'État communiste.
Conclusion terrible de votre film, Géraldine Schwartz, l'Allemagne est toujours divisée par un mur invisible.
Oui, un mur invisible plus politique qu'économique. Et je pense que l'Allemagne de l'Ouest aussi a fait des erreurs. Elle a manqué d'empathie, car il y a quand même une souffrance qu'on ne peut pas négliger. Les Allemands de l'Est ont eu un choc culturel. Ils ont dû s'adapter à une société où l'initiative personnelle, la concurrence, la compétition est valorisée. Venant d'une dictature où tout était dicté, c'était un défi énorme. Et aujourd'hui, on se rend compte que le défi principal de la réunification de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe, n'était peut-être pas la transition économique, mais la transition démocratique. Et en cela, il faut que les pays de l'Ouest montrent beaucoup plus d'intérêt et d'empathie à l'égard de l'Est.
Les espoirs perdus de la réunification, c'est un document qui sera diffusé demain à 22h40 sur France 5 et ensuite sur France.tv pour les replays. Merci beaucoup Géraldine Schwartz, vous étiez en ligne depuis Berlin. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre un beau livre captivant avec l'historien Xavier Mauduit. On va tourner des pages de l'histoire de France, mais des pages en couleur, comme celles qui suivent pour la publicité.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se poursuit jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Oubliez le charme du noir et blanc, la nostalgie du sépia. Nos ancêtres étaient faits de chair et de sang. Certains avaient les yeux clairs et des habits chatoyants. C'est ce que nous rappelle et nous montre cet étonnant livre d'histoire et d'images colorisées, Notre histoire en couleur aux éditions Les Arènes. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Patrick Cohen.
Agrégé d'histoire, vous avez choisi 150 clichés de célébrités ou d'inconnus et en couverture de votre livre Jaurès. Sous un drapeau rouge, auprès Saint-Gervais, Baudelaire, la tour Eiffel à moitié construite, un poilu de 1914 et Gabrielle Chanel alias Coco Chanel. Qu'est-ce qui a guidé vos choix ?
Le choix a été guidé par la volonté de créer notre imaginaire collectif. Vous savez Patrick, nous avons tous en tête plein d'images qui racontent notre passé, mais ces images ne sont pas seulement les grands événements historiques. Vous l'avez rappelé, il y a des inconnus, il y a du quotidien, il y a des gens qui font les vendanges, il y a des femmes à l'usine. Et puis bien sûr, on ne peut pas raconter presque un siècle d'histoire sans passer par ces événements majeurs qu'ont été les guerres, le chemin de fer, les congés payés, et puis il faut quand même un empereur, il y a Napoléon III, il faut des présidents de la République. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est une régalade à travers un siècle d'histoire de France.
Des portraits célèbres, Blum, Trotsky, Mistinguett, Joséphine Baker, Louis Berriot, Jules Bonneau de la bande à Bonneau, Jules Ferry, Landru, Matahari, Sarah Bernard, Marie Curie, Colette, Louis Pasteur, qui vous regarde dans les yeux.
Incroyable, magnifique, ce Louis portrait. Pasteur. Oui. C'est vrai que Pasteur est un personnage que l'on connaît par son nom, ne serait-ce que par l'Institut Pasteur. Mais de le voir incarné et en couleur, il y a comme une émotion particulière. Il a un regard intense et face à nous comme ça, on pense à cet homme, parce que c'est vrai que l'histoire est faite par des hommes et des femmes.
Mais est-ce qu'on peut dire, sans vous vexer, Xavier Mauduit, que les inconnus nous touchent davantage que les célébrités, que les regards parfois surpris des soldats, des écoliers dans leur salle de classe, des ouvriers, des exilés, nous parlent plus de leur époque et de leurs conditions sociales.
Non, je vous rejoins complètement là-dessus parce qu'il y a quelque chose de très particulier à toucher au quotidien, à ces petites choses qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce quotidien qui est le nôtre, qui est celui de nos parents, plutôt grands-parents, souvent arrière-grands-parents, ce quotidien-là, en fait, il est étonnant parce qu'il est à la fois très proche de nous et à la fois un peu distant. Et le fait d'avoir colorisé les photos le rapproche. On les comprend mieux, je trouve, ces gens-là en couleur.
La salle de classe des années 1900 est extraordinaire. Ça va parler à tous les enseignants, avec tous les préceptes accrochés au mur. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Sois bon pour les animaux, mais n'oublie pas ton semblable. Fut-il ingrat ? Et cette phrase encore, l'homme doit mettre du bonheur à pratiquer la compassion.
Oui, c'est une photo superbe, cette salle de classe, parce que, et ça c'est un travail d'historien, à partir de là, on peut décrypter tout un temps. Et ce temps-là se décline de mille manières. Déjà, la beauté de la langue, vous avez vu Patrick, la concordance des temps, oui. C'est magnifique. Et puis, l'on voit sur la poitrine des élèves, il y a des petites médailles. Nous sommes avant la Première Guerre mondiale, l'esprit de revanche est là, il faut récupérer de l'Alsace-Lorraine. On voit les vêtements, les tissus, on voit la rigueur. Il y a une carte au mur dans cette salle de classe.
Algérie-Tunisie.
Et Algérie-Tunisie, département français. Donc, il y a mille choses à créer à partir d'une image, à comprendre. Et cette image-là, avec des enfants, est vraiment étonnante parce que les enfants, en fait, n'ont pas vraiment d'âge en soi. C'est le contexte qui change, mais l'enfance est universelle et éternelle.
Il y a aussi la mort en couleur qui nous atteint davantage. Victor Hugo sur son lit de mort, les résistants du groupe Manouchian alignés contre un mur avant leur exécution. Et cette photo terrible, saisissante, des morts de la commune serrés dans des petits cercueils en bois.
Oui, cette photo est étonnante. Ce sont des cadavres, certains bien abîmés parce qu'il y a eu des combats. Et en fait, il y a deux lectures. Il y a cette lecture première de la victime de la Commune de Paris. Nous sommes en 1871. On se dit, ce sont des gens qui ont combattu pour un idéal et qui sont morts. Et après, il y a quelque chose de concret. C'est une demande qui apparaît des deux côtés d'ailleurs, du côté des Versaillais et du côté des communards. Il faut prendre en photo ces cadavres, tout simplement pour pouvoir les reconnaître. Parce que là, il y a urgence, il faut les enterrer très vite.
Bon, Xavier Modu, on pourrait vous dire quand même, qu'est-ce que vous faites du charme du noir et blanc? Est-ce que les clichés en gris sont à ce point désincarnés qu'il faut les bricoler, les corriger avec les technologies d'aujourd'hui?
Alors c'est vrai que les clichés en noir et blanc, on en a plein, on les voit souvent. Donc ce qui était plus intéressant, c'est de les montrer en couleur. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus différent, avec la volonté de s'approcher de ce que ça a pu être. Toujours une règle qui est importante, on ne colorise pas quelque chose qui n'est pas destiné à rester en noir et blanc. On ne touche pas aux œuvres d'art. En gros, si les photographes de ces années-là avaient eu de la couleur, ils auraient fait les photos en couleur. Mais le problème, c'est que la couleur existait, hein, mais c'était très rare, très technique. Et puis, deuxième règle, deuxième impératif, il faut bien préciser à chaque fois qu'on a touché un document, attention, il a été modifié. Mais le but, c'est simplement, dans le plaisir, en fait, de s'approcher un peu de ce qu'a pu être notre passé.
Et vous avez aussi dénicher beaucoup de photos rares et moins connues au-delà des portraits très célèbres de Zola, de Victor Hugo et d'autres. Notre histoire en couleur par Xavier Modu, ça vient de paraître aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup Xavier Modu.
Merci beaucoup Patrick.
Europe 1.
Socrate, Phèdre, Aristophane, devisant de l'amour et de la beauté, c'est ce fameux banquet de Platon, adapté désormais en bande dessinée par Coco et Raphaël Antoven, nos prochains invités dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Le banquet de Platon n'est pas seulement un classique de la philosophie, ce qui peut faire fuir, c'est un grand texte sur l'amour, le désir, la beauté, la force et l'érosion des sentiments. C'est un dialogue, ou plutôt un échange de discours vieux de 2400 ans, mais qui prend un grand coup de jeune et de fantaisie sous le crayon d'une dessinatrice de Charlie. Bonjour Coco.
Bonjour Patrick.
Et d'un professeur de philosophie. Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Patrick Cohen.
Je vous ai souvent entendu citer Platon à ce micro, Raphaël. Pas forcément le banquet d'ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'il a de moderne ce texte? En quoi il nous parle?
Oh, c'est pas seulement moderne, c'est qu'il est éternel. Nous nous aimons de la même façon depuis toujours. Donc c'est le banquet met des mots et des mythes sur la façon la plus naïve, souvent, que nous avons d'aimer, ou sur la tentation de l'amour absolu. Donc c'est ça. Donc lire ça, c'est être lu par ça.
Coco, ça vous parlait le banquet de Platon avant de le recréer avec Raphaël?
Non, pas tellement. C'est pas un texte que j'avais lu. Je l'ai découvert avec Raphaël. On a travaillé dessus. Et bon, de toute façon, l'amour, c'est un thème, c'est vrai, intemporel, et voilà, je me suis amusée à...
Donc vous êtes initiée à ce, à ce banquet.
Oui. Ce qui est très amusant, c'est d'entendre Coco maintenant parler des personnages du banquet avec qui elle est devenue très familière.
Oui, parce qu'un dessinateur, il s'inspire généralement de ce qu'il a sous les yeux, or vous n'avez jamais croisé Socrate ou Aristophane.
Non, c'est vrai, j'ai pu trouver de la documentation qui m'ont aidée à les formuler par ma plume. Après, j'ai laissé libre cours à mon interprétation personnelle de leur caractère, de comment ils étaient, un Agathon un peu fou, un peu dynamique, un Alcibiade bourré mais complètement éperdu pour son Socrate. Donc voilà, ça on peut le faire sentir sous le trait.
Mais vous avez croisé Raphaël Antoven que vous avez affublé d'une toge tout au long des pages de cette bande dessinée.
Voilà, bah, en fait, vous l'avez
je
dit.
Je veux dire que c'est une idée de Coco.
Hein. Oui, c'est mon idée. Non, mais vous l'avez dit, c'est un texte qui a déjà 2400 balais derrière lui. Il fallait quelque part dépoussiérer un peu ce texte qui peut faire peur. C'est un texte de philosophie. J'ai la chance d'avoir travaillé avec un des philosophes actuels contemporains. Il a rendu le texte accessible et je voulais le représenter un peu comme quelqu'un, un petit fantôme qui voudrait apporter un complément d'information ou décortiquer une scène, décortiquer le hoquet d'Aristophane ou parler un peu plus du tête-à-tête, la maïotique. En fait, il apporte des compléments d'information qui ne sont pas dans le texte initial mais qui nous renseignent davantage.
C'est donc le récit d'un banquet où Socrate est invité, question posée à l'Assemblée. Qu'est-ce que l'amour ? Ça commence par l'éloge de l'amour par Phèdre, le jeune Phèdre que vous avez dessiné avec des dents en avant.
Un peu d'acné
aussi. Un peu Rosanna Arquette.
Ouais. Il n'y a ni naissance, ni honneur, ni richesse, rien enfin qui soit capable, comme l'amour, d'inspirer à l'homme ce qu'il faut pour se bien conduire, je veux dire la honte du mal et l'émulation du bien. Et puis un peu plus loin, seul l'amour donne la force de se sacrifier. Il est naïf, Phèdre, Raphaël Antoven ?
Il est naïf, il commet surtout l'erreur de croire que quand on fait un discours sur l'amour, il faut faire le plus bel éloge de l'amour. Or, c'est la grande leçon de Socrate, qui arrivera un peu plus tard dans l'ordre des discours, qui est de dire, mais enfin, quand on parle de quelque chose, il faut dire de quoi on parle, il faut dire la vérité sur cette chose-là, et non ce qu'il y a de plus flatteur à en dire. Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Agathon, un certain nombre de discoureurs, je mets Aristophane de côté, croient naïvement que pour bien parler de l'amour, il faut en dire du bien. Or, dit Socrate, non, il faut en dire la vérité. Et c'est tout le sens de son intervention après.
Vous préférez le mythe d'Aristophane, dont vous soulignez que c'est sans doute l'une des plus belles
parties du
banquet de Platon.
C'est sublime. D'abord, c'est très élégant de la part de Platon quand on sait le rôle actif qu'Aristophane a joué dans la condamnation à mort de Socrate, même s'il le punit en lui donnant un hoquet au moment où il doit prendre la parole la première fois, ce qui est très important parce que ça veut dire que le corps empêche l'esprit de parler. Mais le discours qu'il lui fait tenir est ensuite un discours absolument majeur sur... l'idée qu'au départ nous étions des boules avec quatre jambes, quatre bras et les organes de la génération sur l'extérieur et deux têtes, et que Zeus nous a coupés en deux pour nous punir de notre orgueil et Apollon nous a fabriqué le nombril. Zeus a mis sur le devant les organes de la génération et c'est comme ça que, faute de fusionner avec l'autre, on a pu se donner l'illusion de la fusion en s'accouplant de temps en temps. C'est ce que raconte Aristophane. Je trouve la façon qu'il a eu de mettre un mythe sur une tentation irrésistible.
Et vous avez dessiné ça sous forme d'extase, Coco, hein ?
Oui, graphiquement, c'est très intéressant. Les hommes boules, déjà, il faut les créer. Ils sont bien décrits. Et puis ensuite, il y a leur façon de se mouvoir. Il y a toute l'histoire avec les dieux. Enfin, c'est très riche, c'est foisonnant, un peu à l'image de notre Raphaël, d'ailleurs. Hein. Il est foisonnant. C'est agréable de travailler avec quelqu'un comme ça qui sans arrêt donne du complément, donne du grain à moudre au dessinateur que la dessinatrice que je suis. C'était bien aussi de l'avoir sous la main.
On est dans la Grèce antique et donc il est aussi question de liaison entre deux hommes,
oui.
La liaison notamment entre Socrate et Alcibiade.
Oui, mais il faut bien préciser qu'il ne faut pas poser sur ce texte le filtre de notre époque aujourd'hui et voir dans ce texte par exemple une défense et illustration de l'homosexualité. En fait, ce n'était pas un problème pour Platon. La seule différence qu'il fait, en somme, entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est que l'hétérosexualité a pour effet de produire des enfants, alors que l'homosexualité, la GPA n'existant pas encore, nous prive de cette possibilité, et donc donne aux hommes la possibilité de faire des choses beaucoup plus fécondes que des enfants. Nous avons mieux à faire aux yeux de Platon que de perpétuer l'espèce. Nous avons à produire de belles lois, de beaux discours, enfantés dans la beauté. Et c'est ce qu'en un sens, l'homosexualité, principalement entre hommes, je dois dire, permet dans le banquet.
Il y a beaucoup de questions, je le disais, liées à l'amour et au désir. L'une de celles que vous posez au début de ce récit dessiné, existe-t-il au monde, c'est une question magnifique, existe-t-il au monde une seule chose assez aimable pour qu'on la désire encore alors qu'on la possède déjà? C'est une question sur la perpétuation de l'amour et l'érosion des sentiments.
Comment faire pour ne pas... vous savez, Schopenhauer dit que la vie oscille entre la souffrance et l'ennui, entre la souffrance du manque et l'ennui de la possession. Comment faire pour vouloir ce qu'on possède déjà? Comment faire pour désirer ce qu'on a? Et c'est une question qui traverse toute l'histoire de la pensée et paradoxalement, qui est une question que se posent les plus grands métaphysiciens comme les plus grands matérialistes. Comment on fait pour désirer le truc qu'on possède ? Et en fait, la capacité à aimer ce qu'on a déjà, c'est ce que les philosophes appellent le souverain bien. Et c'est l'enjeu de la description que Diotime, prêtresse de l'amour, fait de l'amour et de la naissance de Eros dans le banquet.
C'est très stimulant, on prend beaucoup de plaisir à vous lire. Malheureusement, dans l'actualité, il est moins question d'amour que de haine. Ça ne vous a pas échappé, Raphaël Antoven, j'avais une question philo pour vous, enfin philo-politique. Peut-on combattre la haine aux côtés de porteurs de haine ?
Je crois que c'est de très mauvaises méthodes. Qu'il y ait une... Peut-être faites-vous référence à la manifestation qui aura lieu contre l'islamophobie dimanche prochain, à l'heure où nous discutons, qui est une manifestation où il y aura des gens absolument infréquentables et moyenâgeux et médiévaux. Je trouve que défiler à côté de ces gens-là est une erreur stratégique, d'autant que c'est un sujet majeur. Il existe en France un tenace antique racisme anti-arabe qui est une infamie et qu'il faut combattre de toutes ses forces. Il existe aussi en France des escrocs qui essaient d'indexer sur ce racisme toute critique de la religion musulmane. Et cette escroquerie-là, qui neutralise tout discours critique en République sur la religion, est une escroquerie qu'il faut combattre. Or, le casting de la manif de dimanche a pour effet d'ancrer cette escroquerie dans les consciences. Donc je pense que c'est une erreur, oui. En tout cas, j'irai pas. Mais je n'étais pas invité non plus.
Escroquerie, vous avez repris ce terme qui était celui
de Charbes. Absolument. C'est pas l'islamophobie qui est une escroquerie, c'est l'utilisation qui en est faite pour neutraliser un discours qui est un discours de critique à l'endroit des religions.
Les escrocs de l'islamophobie, et je rappelle que l'un des initiateurs de ce défilé a traité récemment ce Charlie de Pouilleux en espérant que ce journal cessera d'être.
Et que ses auteurs cessent d'être. C'est ça l'expression qu'il a employée, c'est Taha Abou Hafs.
Le banquet d'après Platon, chef-d'œuvre élevé par Coco et Raphaël Antoven au rang de bande dessinée, ça vient de paraître aux éditions Les Échappées. Merci d'être venu nous en parler.
Merci Patrick. À vous. Europe 1.
Ainsi s'achève, c'est arrivé cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 9h10, avec Christiane Taubira, Pascal Pic et Baptiste Trottignon, soit de la politique du jazz et de la paléoanthropologie. Mais pour l'heure, dans 5 minutes, on va continuer d'écouter Le Monde Changer. Avec vous, bonjour Olivier Duhamel.
Oui, avec Mediapolis.
Lys, exactement.
Voilà, où nous recevons, puisque nous sommes le 9, 11, j'allais dire 89,
2019. 30 ans plus tard.
Hélène Kohl sera avec nous, notre formidable correspondante à Berlin. Et en studio, Justin Weiss, qui est historien et directeur du Forum de Paris sur la paix. Ça va être super.
Je serai à l'écoute. Excellente émission. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.